Laudetur Jesus Christus.
Le confinement et l'inquiétude grandissent en Chine face à la propagation du coronavirus. Déjà plus de 800 personnes sont affectées, de nombreux sites touristiques désormais fermés en mesure de prévention. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place. Un an après la prestation de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, les défis sécuritaires sont toujours grands dans le pays, en particulier dans la région de Beni, au nord-est du pays, région toujours marquée par la violence des groupes armés. Dans ce journal également, un nouveau vendredi de manifestation en Algérie, le 49e consécutif. Quel peut être l'avenir du mouvement populaire Irak qui met la pression sur le gouvernement? Et puis nous parlerons de l'opposant vénézuélien Juan Guaido qui est en France aujourd'hui. Il est reçu cet après-midi par Emmanuel Macron à l'Élysée. Une nouvelle étape d'une tournée internationale. Guaido qui est affaibli et qui est venu chercher en Europe des soutiens.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir à tous. Plus de 40 millions de personnes interdites de sortir de chez elles. En Chine, le confinement et l'inquiétude grandissent alors que le coronavirus se propage. Plus de 800 personnes ont déjà été infectées et 26 autres sont mortes. Les autorités chinoises ont pris des mesures drastiques pour contrôler la diffusion de ce virus dont l'origine est toujours inconnue, à commencer par l'annulation des festivités prévues pour le Nouvel An chinois. À Hong Kong, Philippe Dova.
Au grand mot, les grands remèdes, et en annulant les cérémonies prévues pour célébrer l'entrée dans l'année du rat, Pékin a décidé de frapper fort. Symboliquement, c'est un peu comme si en France le défilé et les festivités du 14 juillet étaient annulés. Les fêtes traditionnelles et les vacances du Nouvel An sont l'unique moment de l'année où les Chinois peuvent se retrouver en famille dans leur ville natale respective. Un moment sacré et ces annulations illustrent bien l'extrême gravité de la situation. Aucune ville n'échappe à la règle, à commencer par la capitale, la cité interdite, les tombes Baoming, les pagodes, les stades, sans oublier la Grande Muraille. En fait, ce sont tous les sites touristiques qui chaque année attirent des millions de citoyens qui seront fermés à partir de demain. Les consignes du gouvernement sont on ne peut plus claires, éviter les endroits surpeuplés pour lutter contre l'épidémie. À Wuhan et dans 6 villes voisines, ce sont 40 millions de personnes qui sont dorénavant coupées du monde. Des villes où règne une ambiance d'apocalypse, tous les magasins sont fermés, les transports en commun arrêtés, les rues désertes et pour les rares personnes qui s'y aventurent, le port du masque est obligatoire sous peine d'amende. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
Et la communauté internationale regarde aussi ce virus avec inquiétude. Après plusieurs cas détectés au Japon, en Corée ou encore en Thaïlande, ce sont désormais les États-Unis qui ont renforcé leur contrôle. Les États-Unis qui ont enregistré un deuxième cas de ce coronavirus à Chicago. Des milliers de personnes de nouveau dans les rues de Bagdad ce vendredi. Appel du leader chiite Moqtada al-Sadr. Ils ont demandé l'expulsion des troupes américaines du pays. Le sentiment anti-américain en Irak a fortement grandi depuis le raid aérien qui a tué le général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier dernier. Moqtada al-Sadr qui a demandé l'annulation des accords sécuritaires entre Bagdad et Washington, appelant également le président américain Donald Trump à ne pas être arrogant face aux responsables irakiens. Les manifestations se poursuivent également au Liban malgré la nomination d'un nouveau gouvernement mardi dernier. De nombreux Libanais sont toujours dans la rue. Ils ne décolèrent pas et s'inquiètent notamment de la grave crise économique qui touche le pays. Hier, Paris a exhorté le nouveau Premier ministre Hassan Diab à prendre des mesures d'urgence et même de rétablir la confiance. Un autre pays a également connu un nouveau vendredi de manifestations, l'Algérie, où des milliers de manifestants se sont retrouvés pour la 49e semaine consécutive. Une nouvelle fois, ils ont réclamé la fin du système politique algérien. Le Irak, c'est le nom de ce mouvement politique inédit dans le pays, met toujours la pression, malgré la chute d'Abdelaziz Bouteflika et l'élection d'un nouveau président, Abdelhadi Tebboune, et l'intronisation de son nouveau gouvernement. Une question se pose aujourd'hui, Marine Henriot. Quelle forme peut maintenant prendre ce mouvement de contestation?
Oui, Olivier, car le nouveau président semble vouloir répondre à la colère de la société algérienne. Dès son élection en décembre, il a promis une révision de la Constitution et un comité d'experts a été mis en place pour plancher sur ce projet. Abdelmadjid Tebboune s'efforce de ne pas se mettre à dos le Irak. Ces derniers jours, il a entamé des consultations avec des personnalités politiques pour parvenir à promulguer une constitution, je cite, consensuelle, dont le projet serait soumis à référendum. L'avis de tous sera pris en compte lutte, promet le nouveau président algérien. Mais le nouveau chef de l'État peine à convaincre. Il est trahi par son passé d'ancien ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Il représente finalement tout un système dont la rue veut se débarrasser. En face, cependant, le Irak ne se mue pas en mouvement politique et n'a pas de visage, si ce n'est celui du PAD, le pacte de l'alternative démocratique, né dans le courant des manifestations. C'est une plateforme de différents partis politiques, mais aussi d'associations et de représentants de la société civile. Ils organisent demain à Alger des assises. Leur but, réaliser une conférence nationale de l'opposition au régime.
Merci beaucoup Marine Henriot. Angela Merkel en visite ce vendredi à Istanbul. La chancelière allemande s'est entretenue avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Tous les deux ont appelé à consolider la trêve en Libye. Une trêve très précaire alors que le maréchal Haftar, qui mène depuis des mois une offensive vers Tripoli, ne s'est engagé que verbalement à la respecter. L'opposant vénézuélien Juan Guaido en France, il est reçu cet après-midi par Emmanuel Macron à l'Élysée. Une nouvelle étape d'une tournée internationale qu'il a fait arriver en Europe cette semaine. Une tournée qui vise à resserrer les liens avec la cinquantaine de pays qu'il a reconnus comme président par intérim après sa proclamation il y a un an. D'autant qu'au Venezuela, Juan Guaido est plus affaibli que jamais. Les appels à manifester ne prennent plus et un autre député d'opposition, Luis Parra, revendique son perchoir à l'Assemblée nationale. La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
C'est un véritable marathon qu'a engagé Juan Guaido le week-end dernier. Un marathon risqué puisqu'il a dû braver une seconde fois son interdiction de sortie du territoire. Après Bogota, où il a rencontré le président colombien Iván Duque et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il s'est envolé pour l'Europe. Londres d'abord, où il a croisé Boris Johnson, Bruxelles ensuite pour une réunion avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, puis Davos en Suisse. Seul, nous n'y arriverons pas, a-t-il lancé depuis la tribune du Forum économique mondial. Le voyage continue aujourd'hui à Paris, où Emmanuel Macron doit le recevoir au palais de l'Élysée, puis direction Madrid demain. Le reste du programme est un peu flou, son entourage parle d'un détour aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Son objectif, en revanche, est très clair, réclamer une pression internationale plus forte contre Nicolas Maduro. Mais après un an où les sanctions se sont multipliées contre Caracas, sans succès, on voit mal ce que les alliés internationaux de Juan Guaido peuvent faire de plus. Caracas, Benjamin Delisle pour Radio Vatican.
La Bolivie suspend ses relations diplomatiques avec Cuba, une décision prise après que le ministre cubain des Affaires étrangères a qualifié la présidence bolivienne par intérim de Jeanine Agnès d'illégale et d'autoproclamée. La Paz dénonce des déclarations hostiles et permanentes de la Havane à l'encontre du gouvernement constitutionnel bolivien et de son processus démocratique. La Bolivie, dont l'ancien président Evo Morales vit désormais en exil en Argentine, est dans une phase d'intérim jusqu'aux prochaines élections qui auront lieu le 3 mai. Il y a tout juste un an, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi était investi après de longues semaines de tensions politiques liées au vote. Un an après son arrivée au pouvoir, les défis sont encore immenses pour le plus grand pays d'Afrique qui a souhaité tourner la page des années Kabila. L'un des points noirs du pays reste la situation sécuritaire dans le Nord Kivu où la violence des groupes armés est encore quotidienne. Le récit de notre correspondant à Goma, Augustin Mossangue.
À Beni, ville située au nord de la province du Nord Kivu, c'est d'une manière sécuritaire et humanitaire que les bilans est débattu. Cette population qui vient de traverser actuellement 5 ans d'insécurité intense avec de tueries des EDF reste divisée sur le bilan de ce 1 an de Félix Tshisekedi au pouvoir. Il a effectué 2 voyages à Beni durant cette année. Enfin, du mois d'octobre 2019, il a dépêché le quartier général avancé des forces armées à Beni, mais également lancé les opérations des grandes envergures pour la traque des EDF qui aujourd'hui, selon les forces armées de la RDC, avancent à grands pas avec beaucoup des bastions de l'ennemi récupérés, d'autres neutralisés et capturés. La société civile de Beni dénonce le fait que rien n'a changé sur terrain. Les tueries en répétition de l'ennemi continuent et se sont d'ailleurs accentuées, ce qui a plongé la population dans une crise humanitaire énorme. On ne peut pas parler de bilan positif de Félix Tshisekedi pendant ce 1 an car l'ennemi existe et est toujours là. Ses capacités de nuisance n'ont pas diminué. Goma, Augustin Mossangue, Radio Vatican.
Dans l'actualité au Vatican, le message du pape François à l'occasion de la prochaine journée mondiale des communications sociales, comme tous les 24 janvier, fête de Saint François de Sales, saint patron des journalistes, le pape délivre un message, raconté pour trouver du sens, fuir la tentation des histoires destructrices. Telle est l'invitation donnée aujourd'hui par le Saint-Père. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. Et puis le pape qui a reçu ce matin le vice-président américain Mike Pence pour une visite privé, un tête-à-tête qui a duré 1 heure. Pence qui est venu transmettre au pape François les chaleureuses salutations du président américain Donald Trump. Le pape qui a offert à son hôte une médaille pour la paix. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera, comme chaque jour, demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.